Maintenant, on va monter là-haut sans faire de bruit, dit Fred, et on attendra que maman nous appelle pour le petit déjeuner. À ce moment-là, Ron, tu te précipites dans la cuisine en criant « Maman, regarde qui est arrivé cette nuit !» Elle sera ravie de voir Harry et personne ne saura jamais qu'on a emprunté la voiture. « D'accord, dit Ron. Viens, Harry, ma fendre et... » Ron s'interrompit. Ses yeux se fixèrent sur la maison et son visage prit soudain une teinte verdâtre. Les trois autres firent aussitôt volte-face. Madame Wesley traversa la cour à grands pas, provoquant la panique parmi les poulets. La petite femme replète au visage bienveillant semblait s'être brusquement transformée en une tigresse redoutable.
« Aïe !» dit Fred. « Ouh là là !» dit Georges.
Madame Wesley vient se planter devant eux, les mains sur les hanches, regardant alternativement chacun de ses trois fils qui baissaient la tête d'un air coupable. Elle portait un tablier à fleurs avec une poche d'où dépassait une baguette magique.
« Alors ?»«
Bonjour, maman, » dit Georges en s'efforçant sans grand succès d'adopter un ton joyeux et conquérant.
« Est-ce que vous vous rendez compte que j'étais morte d'inquiétude ?»
dit Madame Wesley dans un murmure impressionnant. « Désolé, maman, mais tu sais, fallait que... » Chacun des trois fils de Madame Wesley était plus grand qu'elle, mais ils semblèrent se ratatiner sur place lorsque sa rage explosa.
« Les lits vides, pas le moindre mot, la voiture disparue. Auriez pu avoir un accident. Vos folles d'inquiétude, vous en fichez. Jamais vu ça. Attendez que votre père soit rentré. Jamais Bill, Charles ou Percy ne nous ont causé autant de soucis. »
« Le préfet Percy, hein, » marmonna Fred.
« Toi, tu ferais bien de t'inspirer de Percy un peu plus souvent !» s'écria Madame Wesley en enfonçant l'index dans la poitrine de Fred. « Vous auriez pu vous tuer, vous auriez pu vous faire repérer par les moldus, vous auriez pu faire perdre son travail à votre père !»
Elle sembla hurler ainsi pendant des heures.
Enfin, lorsqu'elle se fut cassée la voix, elle se tourna vers Harry, qui eut un mouvement de recul.
« Je suis vraiment très contente de te voir, Harry. Viens donc manger quelque chose, tu dois avoir faim. »
Elle tourna sur ses talons et rentra dans la maison. Harry lança un regard inquiet à Ron qui lui fit un signe de tête pour l'encourager à la suivre. La cuisine était petite et encombrée. Une table et des chaises en bois brut occupaient le centre de la pièce. Harry s'assit sur le bord d'une chaise en regardant autour de lui. C'était la première fois qu'il pénétrait dans une maison de sorciers. La pendule accrochée au mur en face de lui n'avait qu'une seule aiguille et aucun chiffre. Tout autour du cadran, on pouvait lire diverses inscriptions. « Heure du thé »,« Heure de nourrir les poulets » ou « Tu es en retard. » Trois rangées de livres s'alignaient sur le manteau de la cheminée. Harry lut quelques-uns des titres. « Comment ensorceler son fromage ?»« La pâtisserie magique. » »« Festin minute en un coup de baguette. » Une vieille radio posée à côté de l'évier annonça l'émission « Salut les sorciers » avec la célèbre chanteuse Célestina Moldubeck. Dans un cliquetis de vaisselle, Madame Wesley s'occupait à préparer le petit déjeuner avec de grands gestes désordonnés, jetant des saucisses dans la poêle et des regards furieux à ses trois fils. De temps en temps, elle marmonnait quelque chose.
« Je me demande ce que vous avez dans la tête. »
Ou « Jamais je n'aurais pensé une chose pareille.
Jamais. »
« Toi, tu n'y es pour rien, mon pauvre chéri, »
dit-elle à Harry en remplissant son assiette d'un gros tas de saucisses.
« Arthur et moi, nous nous faisions du souci à ton sujet. Hier soir encore, nous nous sommes dit que nous irions te chercher nous-mêmes si vendredi tu n'avais pas répondu à Ron. Mais quand même, traverser la moitié du pays dans une voiture volante totalement interdite, n'importe qui aurait pu vous voir. »
Elle agita machinalement sa baguette magique en direction de l'évier où la vaisselle entassée commença à se laver toute seule.
« Il y avait des nuages, maman, » dit Fred.
« Toi, tu ne parles pas la bouche pleine. » répliqua sèchement Madame Wesley.
« Mais maman, Harry mourait de faim là-bas, » dit Georges.
« Toi aussi, tu te tais. »
Madame Wesley paraissait un peu calmée lorsqu'elle coupa du pain qu'elle se mit à beurrer pour le donner à Harry. Au même moment, une petite silhouette aux cheveux roux, vêtue d'une chemise de nuit, apparut dans la cuisine, poussa un cri et ressortit en courant.
« C'est Vinnie, » dit Ron à voix basse en se tournant vers Harry. « Ma sœur, elle a passé l'été à nous parler de toi. »
« Elle veut ton autographe, Harry, » dit Fred avec un sourire.
Il croisa alors le regard de sa mère et baissa la tête sans ajouter un mot. Un silence régna jusqu'à ce que les quatre assiettes aient été vidées, ce qui ne mit guère de temps.
« Je suis fatigué, » dit Fred dans un bâillement en posant enfin son couteau et sa fourchette. « Je crois que je vais aller me coucher. »
« Certainement pas. »
dit sèchement Madame Wesley. «
C'est entièrement ta faute si tu as passé la nuit sans dormir. Tu vas immédiatement aller dégnommer le jardin. Ces horribles créatures ont encore tout envahi. »
Oh, maman, et vous deux, vous allez l'aider ?
Reprit-elle en jetant un regard furibond à Ron et à George. « Toi, tu peux aller te coucher, mon chéri, » ajouta-t-elle à l'adresse de Harry. « Ce n'est pas toi qui leur a demandé de prendre cette maudite voiture. »
Mais Harry n'avait pas du tout sommeil.
« Je préférerais aider Ron, » dit-il précipitamment. « Je n'ai jamais vu dégnommer un jardin. »« C'est très gentil à toi, mon chéri, mais c'est un travail très ennuyeux. » Voyons un peu ce que Lockhart a dit à ce sujet. Elle prit un gros volume sur la cheminée. Georges poussa un grognement. « Maman, on sait très bien dégnommer un jardin. » Harry jeta un coup d'œil à la couverture du livre. Écrit en lettres d'or, il lut « Gilles de Roy Lockhart, le guide des créatures nuisibles ». Au-dessous, une grande photo montrait un sorcier au visage séduisant avec des cheveux blonds ondulés et des yeux bleu clair. Comme toujours dans le monde des sorciers, la photo était animée. Gilles de Roy Lockhart ne cessait de lancer des clins d'œil coquins autour de lui. Le visage de Madame Wesley rayonnait.
« Il est tellement merveilleux, dit-elle. Il sait tout sur les nuisibles. C'est un livre remarquable. »«
Mens un faible pour lui, »
dit Fred dans un murmure parfaitement audible pour tout le monde.
« Allons, Fred, ne sois pas ridicule, » protesta Madame Wesley, les joues rosissantes. « Si vous pensez que vous en savez plus que Lockhart, allez-y, débrouillez-vous. Mais gare à vous si je trouve le moindre gnome dans le jardin quand j'irai faire mon inspection. »
Bâillant et ronchonnant, les frères Wesley sortirent d'un pas traînant, suivis par Harry.
Le jardin était grand et correspondait exactement à l'idée que Harry se faisait d'un jardin. Les Dursley ne l'auraient pas aimé du tout. Il était envahi de mauvaises herbes et la pelouse avait grand besoin d'être tondue. Mais Harry était émerveillé par les arbres noueux plantés le long des murs et les massifs débordants de plantes et de fleurs qu'il n'avait encore jamais vus, sans compter la grande mare verte remplie de grenouilles.
« Les moldus aussi ont des gnomes dans leur jardin, »
dit Harry à Ron.
« Oui, j'en ai vu, » dit Ron, penché sur un massif de pivoines. « Mais ce ne sont pas des vrais gnomes, on dirait des petits Pères Noël grassouillés avec des brouettes et des canapèces. »
Il y eut soudain une grande agitation dans les pivoines qui se mirent à remuer en tous sens et Ron se redressa en tenant une créature à la main.
« Ça, c'est un vrai gnome, » dit-il d'un air sombre.
« Fiche-moi la paix, fiche-moi la paix !»
couina le gnome. Il n'avait en effet rien à voir avec un Père Noël. Il était petit avec une peau comme du cuir, une grosse tête chauve couverte de verrues qui ressemblait à s'y méprendre à une pomme de terre. Ron le tenait à bout de bras tandis que la créature essayait de lui donner des coups de ses petits pieds noueux. Ron l'attrapa par les chevilles, le retourna la tête en bas. « C'est comme ça qu'il faut s'y prendre, » dit-il. Il leva le gnome au-dessus de sa tête et le fit tourner comme un lasso. En voyant l'expression choquée de Harry, Ron expliqua.
« Ça ne leur fait pas mal. Simplement, il faut leur donner le tournis pour qu'ils ne retrouvent plus le chemin de leur trou à gnome. »
Il lâcha les chevilles de la créature. Celle-ci, alors, fit un vol plané de plusieurs mètres et atterrit avec un bruit sourd dans le champ qui s'étendait de l'autre côté de la haie.
« Ridicule, » dit Fred. « Je te parie que j'arrive à lancer le mien plus loin que la souche d'arbre là-bas. »
Harry apprit très vite à ne pas trop éprouver de pitié pour les gnomes. Il décida de laisser simplement tomber de l'autre côté de la haie le premier qu'il attrapa, mais le gnome, sentant une faiblesse de sa part, lui planta dans le doigt ses dents tranchantes comme un rasoir et Harry dut secouer frénétiquement sa main pour essayer de lui faire lâcher prise jusqu'à ce que...
« Bravo, Harry! Tu l'as lancé au moins à 15 mètres !»
Bientôt, les gnomes se mirent à voler en tous sens. « Ils sont pas très malins, » dit Georges, qui en avait attrapé 5 ou 6 d'un coup. « Dès qu'ils s'aperçoivent que le dégnommage a commencé, ils sortent de leur trou pour regarder ce qui se passe. »
Depuis le temps, on pensait qu'ils auraient appris à se cacher.
La foule des gnomes qui avait atterri dans le champ s'éloignait en désordre, le dos rond, la démarche incertaine. « Ils reviendront, » dit Ron en les regardant disparaître dans la haie à l'autre bout du champ. « Ils adorent venir ici. Papa est trop gentil avec eux. Ils les trouvent drôles. »
Au même instant, la porte de la maison claqua.
« Il est revenu !» dit Georges. « Papa est rentré !»
Ils traversèrent le jardin en courant et retournèrent à l'intérieur de la maison. Monsieur Weasley était affalé sur une chaise de la cuisine. Il avait enlevé ses lunettes et fermé les yeux. Il était mince et presque chauve, mais les quelques cheveux qui lui restaient étaient aussi roux que ceux de ses enfants. Monsieur Wesley était vêtu d'une longue robe verte de sorcier, couverte de poussière et usée par les longs voyages.
Quelle nuit, marmonna-t-il en attrapant la théière à tâtons. Tout le monde s'assit autour de la table. 9 interventions, s'exclama Monsieur Wesley. 9. Un certain Modingus Fletcher a essayé de me jeter un sort pendant que j'avais le dos tourné. Il avala une longue gorgée de thé, poussa un profond soupir.
« Tu as trouvé quelque chose, papa ?» demanda Fred avec intérêt.
Bon, pff, quelques clés rétrécissantes, une bouilloire mordeuse. Répondit M. Wesley en bâillant. Il y a eu pas mal de sales histoires qui ne relevaient pas de mon département. Mortlake a dû répondre à quelques questions concernant des furets très étranges, mais c'est du ressort de la commission des sortilèges expérimentaux. Dieu merci!
Qu'est-ce qui s'amuse à fabriquer des clés rétrécissantes, s'étonna George.
Bon, t'as un simple attrape-moldu, soupira M. Wesley. Ils leur vendent des clés qui finissent par disparaître à force de rétrécir. Et les moldus n'arrivent plus à remettre la main dessus. Bien sûr, il est très difficile de faire condamner qui que ce soit. Aucun moldu ne voudra jamais admettre que ces clés rétrécissent. Ils sont persuadés qu'ils les ont perdues. Heureusement, ils sont prêts à croire n'importe quoi quand il s'agit de nier la magie, même lorsqu'elle leur crève les yeux. Mais c'est fou le nombre d'objets que les sorciers s'amusent à transformer.
Les voitures, par exemple. Madame Wesley venait d'apparaître dans la cuisine. Elle tenait à la main un long tisonnier qu'elle brandissait comme une épée. Monsieur Wesley ouvrit soudain des yeux ronds et regarda sa femme d'un air coupable.
Les voitures, ma chérie ?
Parfaitement, Arthur, les voitures, dit Madame Wesley, les yeux flamboyants. Imagine un sorcier qui achèterait une vieille voiture rouillée en disant à sa femme qu'il veut simplement la démonter pour voir comment c'est fait, alors qu'en réalité, il s'amuse à la trafiquer pour la faire voler. Monsieur Wesley cligna des yeux.
Tu sais, ma chérie, un sorcier qui ferait ça ne violerait pas la loi, même si... Enfin, il aurait dû dire la vérité à sa femme. Enfin, il y a une lacune dans la loi quand on y regarde de près. Du moment qu'il n'a pas l'intention de faire voler la voiture, le fait qu'elle puisse voler...
Arthur Wesley, c'est toi qui t'es arrangé pour qu'il y ait une lacune dans la loi lorsque tu l'as rédigée, s'écria Madame Wesley, simplement pour que tu puisses continuer tes bricolages avec tous ces machins de moldus qu'il y a dans ton garage. Et pour ton information personnelle, je te signale que Harry est arrivé ce matin dans la voiture que tu n'avais pas l'intention de faire voler.
Harry ? Dit Monsieur Wesley sans comprendre.
Mais Harry qui ?
Il regarda autour de lui et sursauta en voyant enfin Harry.
Dieu du ciel ! Oh, c'est Harry Potter !
Ravi de faire ta connaissance ! Ron nous a tellement parlé de toi.
Tes fils sont allés chercher Harry chez lui dans cette voiture volante, s'exclama Madame Wesley. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ?
Oh, vraiment, vous l'avez fait voler, dit M. Wesley, très intéressé. Et elle a bien marché, balbutia-t-il en voyant les yeux de sa femme lancer des éclairs. C'est très mal, les enfants, mais vraiment, alors c'est très mal.
Viens, il vaut mieux les laisser, chuchota Ron à l'oreille de Harry, tandis que Madame Wesley enflait comme un crapaud buffle. Je vais te montrer ma chambre.
Ils se glissèrent hors de la cuisine et suivirent un couloir étroit jusqu'à un escalier aux marches bancales qui montait en zigzag dans les étages. Au deuxième, une porte était entrouverte. Harry eut le temps d'apercevoir des yeux brillants qui le regardaient. Puis la porte se referma en claquant.
« C'est Ginny, » dit Ron. « C'est vraiment bizarre qu'elle soit si timide. D'habitude, on n'arrive pas à la faire taire. »
Ils montèrent encore deux volées de marche avant d'arriver devant une porte à la peinture écaillée sur laquelle était écrit « Chambre de Ronald ». Harry entra dans la pièce. Sa tête touchait presque le plafond incliné qui épousait la forme du toit. Ébloui, il cligna des yeux. Il avait l'impression d'avoir pénétré dans une fournaise. Presque tout dans la chambre de Ron avait une couleur orange vif. Le couvre-lit, les murs et même le plafond. Harry remarqua alors que Ron avait presque entièrement recouvert le papier mite des murs avec des affiches représentant sept mages et sorcières, toujours les mêmes, tous vêtus de robes orange et tenant à la main des balais qu'il brandissait avec énergie.
« C'est ton équipe de Quidditch préférée ?» demanda Harry.
Les canons de Sudley, dit Ron en montrant le couvre-lit orange brodé de deux grands C et d'un boulet de canon. Ils font 9e au championnat.
Les livres de magie de Ron étaient entassés en désordre à côté d'une pile de BD qui semblait tout avoir pour héros Martin Miggs, le moldu fou. La baguette magique de Ron était posée sur un aquarium rempli de têtards installé sur le rebord de la fenêtre à côté de Croutard, son gros rat gris qui somnolait dans un rayon de soleil. Harry enjamba un jeu de cartes, auto-battante, étalé sur le sol et regarda à travers la minuscule fenêtre. Dans le champ, tout en bas, il aperçut une bande de gnomes qui se glissaient un par un à travers la haie du jardin des Wesley. Il se tourna ensuite vers Ron qui le regardait d'un air anxieux, comme s'il attendait son opinion.
« C'est un peu petit, » dit précipitamment Ron. « Pas comme la chambre que tu avais chez les moldus. Et je suis juste sous le grenier où habite la goule. Elle arrête pas de taper sur les tuyaux de grenier. » Mais Harry eut un large sourire. « C'est la plus belle maison que j'ai jamais vue, » dit-il. Les oreilles de Ron prirent alors une couleur rose vive.